colonie. L'interlocuteur du colonisé est le gendarme ou le soldat. Le monde colonisé est un monde coupé en deux.
Vous ne les connaissez pas, ils sont dangereux. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains ?
Ce sont des hommes comme vous et moi.
Ah, mais comment vous voulez changer les choses, ici en Algérie ?
Ici comme ailleurs.
Monsieur Fanon, je travaille avec vous. On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée.
Vous allez apprendre à vivre avec eux, et eux avec vous.
Si vous défendez des Algériens, ils vont faire un dossier contre vous.
Pas le droit de se défiler. Et enfin une chance que ça change ici.
Arrêtez avec vos théories, vous confondez la médecine avec la révolution.
Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. La remplir ou la trahir. Moi, comme vous.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est le sonore de la bande-annonce du film Fanon. Alors, Franz Fanon, psychiatre d'origine martinaise, est devenu l'un des plus grands penseurs de la décolonisation. Le cinéaste Jean-Claude Berny propose sur nos écrans un projet d'envergure historique et politique plutôt rare. On parle d'un film biographique ou un biopic sur l'homme. Après le succès de Negmaron et Le gang des Antillais, Fanon, c'est le nouveau film donc de Jean-Claude Berny qui retrace le parcours fulgurant de Franz Fanon. Bienvenue au quotidien, Jean-Claude Berny.
Merci de me recevoir.
Alors, pourquoi avoir choisi de porter la vie de Franz Fanon à l'écran maintenant, en 2026?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs idées. La première, c'est que je pense dans ma filmographie, ce personnage, ce grand homme, m'a beaucoup habité depuis mes 19 ans. Et je pensais aussi qu'il fallait que j'attende aussi d'avoir cette maturité pour le faire à un âge bien précis, pour ne pas avoir un sentiment, pas d'inachevé, mais de pas abouti. Et je pense que c'était pour moi le moment.
Vous avez choisi quand même une période assez limitée hein, de sa vie. On commence pas sa jeunesse jusqu'à sa mort. Et pourquoi ce moment-là?
Alors, je pense que, vous savez, tous les cinéastes ont bien les défis. Hein. Mm-hmm. Et je pense que moi, c'était mon défi de pouvoir raconter sur un moment bien précis le parcours de Fanon sans occulter ce qu'il a été avant jusqu'à sa mort. Mais pour moi, faire un film précis, c'est aussi raconter profondément quelque chose et ne pas faire une sorte de passage, de lissage du début à la fin. Et l'arrivée à l'Algérie, jusqu'à la fin de sa vie en Tunisie, jusqu'à sa mort, ben c'est là que je peux aller vraiment très loin pour chercher qui était Fanon.
Vous êtes un cinéaste, on dit autodidacte. En quoi votre propre parcours a-t-il influencé votre manière d'aborder ce personnage aussi complexe qu'était Fanon?
C'est la liberté. C'est vrai que je pense que... Alors, je suis autodidacte, mais j'ai quand même travaillé avec des gens qui avaient des renoms. Et ces gens-là, en les regardant travailler, m'ont permis de comprendre ce que c'était l'amour du cinéma, la passion du cinéma. Et je pense que c'est ça qui me guide, c'est cette passion viscérale de voir raconter des choses au plus grand nombre, mais aussi de les conscientiser de par mon parcours historique et puis aussi de la façon que j'ai d'apporter ma pierre à l'édifice avec beaucoup d'humilité. Hein.
Alors, le film met de l'avant l'arrivée fracassante de Fanon à l'hôpital de Blida-Joinville. Comment avez-vous mis en scène son combat contre la psychiatrie coloniale à l'époque?
En fin de compte, le parti pris que j'ai pris sur ce film, c'est non pas de prendre la place de Fanon, mais de me mettre en face de lui, comme une sorte d'analyse. Et je pense que c'est ça, pour moi, un spectateur, c'est quelqu'un qui va être dans une salle et qui, à un moment, est livré à ce que vous le proposez en tant que cinéaste et objet cinématographique. Ben, c'est ça, le Fanon. Le Fanon, le film qu'on propose, c'est vraiment, pendant 2h13, vous avez un parcours d'un personnage hors norme, mais vraiment, je crois qu'il n'y a pas un homme identique à Fanon sur cette planète et qui a bouleversé beaucoup de gens, beaucoup d'univers, de populations. Et en faire un film, c'est aussi pour moi aussi de montrer à quel point le cinéma peut être aussi un objet de conscientisation. C'est aussi un objet de ludique hein, qui permet de distraire, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut conscientiser une population.
Dans ce film, hein, on voit Fanon ordonner de désentraver, donc de détacher les personnages qu'on dit indigènes. C'est important de montrer que pour lui, là, libérer l'esprit, ça passait par libérer les corps.
Ouais. Fanon, c'est un homme d'action, c'est un psychiatre avant tout, et je crois que c'est là où il tient sa force. C'est qu'il y a beaucoup de grands hommes que nous connaissons, Martin Luther King, Malcolm X, beaucoup de Mandela, beaucoup de gens de figures très forts à ce niveau-là, des icônes. Mais ce que Fanon a proposé au monde, c'est l'être humain et c'est la psychiatrie, c'est l'apnéopsychiatre. C'est comment on peut aussi être aliéné, comment cette structure coloniale peut se mettre en place et puis contraignent le corps et l'esprit à devenir des gens qui obéissent aveuglément. Et Fanon, je pense que c'est ça qu'il a mis en avant, c'est vraiment la déconstruction de l'état colonial à travers la psychiatrie.
Et c'est quelque chose qui est encore d'actualité, on va y revenir d'ailleurs, mais il y a aussi une place, quelle place occupe Josie Fanon, qui était sa conjointe dans ce récit?
Alors, en faisant mes recherches, finalement, j'ai vu qu'on parlait beaucoup de tous ceux qui entouraient Fanon, hein, mais il y avait... Josie était nulle part historiquement.
Mais ça, c'est normal, c'est une femme. C'est comme ça que c'était à l'époque, hein, les femmes n'étaient pas dans l'histoire beaucoup.
Je rigole, mais c'est pas ça.
Mais c'est parce que c'est pas drôle, finalement.
Et c'est pas drôle, oui, c'est ça. C'est que, voilà, on dit toujours, derrière chaque grand homme, il y a une femme, mais il y a plus que ça. Ouais. Il y a aussi quelqu'un qui vous accompagne, il y a quelqu'un qui vous guide, il y a quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un, des fois aussi, qui est militant en tant que vous. Mm-hmm. Et c'est vrai que l'histoire coloniale, ou même, a toujours pris l'homme en avant et rarement les femmes. Et je pense que restituer la femme au centre de l'œuvre de Fanon, c'était que justice. Josie Fanon n'était pas la femme de Fanon, elle était incarnée par un désir très politisé, c'était quelqu'un qui aimait les populations et elle avait sa marche à suivre. Et je pense que lui redonner une place forte dans ce film, c'était que justice.
Et c'est très bien interprété d'ailleurs aussi, ouais, on doit dire.
Par Déborah François.
Oui. Ouais. En fait, les deux grands interprètes de ce film sont absolument formidables. Comment les avez-vous trouvés?
Alors, Alexandre Bouillet, c'est vraiment une rencontre incroyable. C'est un jeune comédien qui est trentenaire et qui a quand même une très forte assise en tant que de formation de théâtre. On ne sait pas du tout quelqu'un qui arrive et tout, et c'est pour ça qu'il m'a plu. Et puis, il arrive au casting et puis vraiment, j'étais surpris, mais je dis surpris par sa ressemblance. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui ressemblait autant à un personnage historique. Mmh. Et puis, on a travaillé et puis vraiment, ça s'est super bien passé. C'est vraiment un talent pur. Alexandre Bouillet, c'est vraiment un talent qui fera date. Et Déborah, c'est aussi une rencontre vraiment de casting en pur. Et je pense que les deux ensemble ont vraiment mis le feu sur ce film.
Toute une intensité dans le jeu, ça c'est clair. Le film a connu quand même un démarrage difficile, hein, parce que certains réseaux, on parle de MK2, réseau de cinéma à Paris, qui craignait une faible attractivité avant de devenir un succès parce qu'on a parlé de 100 000 entrées. Comment vous analysez ce décalage?
C'est un peu justement ce qu'on appelle la discrimination systémique, c'est-à-dire qu'il y a des a priori comme ça sur des projets, et Fanon en faisait partie. Bon, voilà, c'est un film qui est réalisé par un Antillais, par un Guadeloupéen, et qui n'y a pas de star bankable, donc voilà, c'est un film d'auteur, petit film d'auteur. Mais je pense que les gens ont oublié que Fanon, c'est quelqu'un qui est mondialement connu. Fanon, c'est le monde entier qui résonne son nom.
Et même quand on ne le connaît pas, on le découvre, là.
Ah ouais. Et je pense qu'au départ, il y avait... voilà, ils ont refusé. Enfin, voilà, il y a eu quand même un vrai refus des grandes salles pour prendre ce film-là. Mais le bouche-à-oreille a fonctionné. Et puis, on est parti très, très loin. Et on a fait un très gros score en termes d'entrée, très gros.
Alors, j'ai fait ma recherche, évidemment. J'ai vu aussi qu'il y avait des critiques à votre égard, notamment de certains militants qui vous reprochent d'avoir dépolitisé, bon, des anachronismes, ça, dans les films, ça arrive tout le temps, mais d'avoir dépolitisé, une vision dépolitisée de Fanon. On vous reproche d'avoir trahi la radicalité de la pensée de Fanon. Comment vous répondez à ça?
Je réponds que... Enfin, c'est très dur, vous savez, parce qu'en face de moi, il y a des gens qui parlent et ils sont souvent assis dans un fauteuil et puis ce sont des spectateurs. Hein.
Ouais.
Et ces spectateurs font sur le film avant vous. Et très clairement, c'est difficile à ne pas répondre parce que je pense que justement ce qu'on a voulu montrer dans ce film, c'est plutôt la carapace de l'être humain. C'est vraiment une démarche qui est plutôt faire de Fanon quelqu'un qui a vraiment œuvré, qui a vraiment apporté un regard très précis sur la psychiatrie, très précis sur l'accusation et qui aussi parle d'aliénation. Et je pense que souvent, alors je le dis vraiment, je suis très à l'aise là-dessus, que souvent le militantisme ne sont pas des gens qui se sont désalignés. Ce sont des gens qui rentrent dans des combats à juste titre, hein, d'injustice. Mais avant de rentrer dans tous ces combats, il faut savoir d'abord si nous, on a fait ce travail de désalignation. C'est tout ce qu'on appelle le devoir de mémoire.
Ouais.
Et souvent, je me rends compte que quand on parle avec eux, très rapidement, vous voyez que c'est sur un coup, c'est pas sur une longueur.
Ouais.
Donc voilà, la radicalité, ça peut marcher, mais la radicalité ne fonctionne que si vous savez très bien d'où elle vient et où elle va, et non pas comme un lance-pierre, vous la jetez, puis on ne sait pas où ça donne. Chez tous les peuples, en tout cas pour moi, qui ont besoin vraiment de se décoloniser, ça passe aussi par l'esprit, quoi.
Ben justement, parlons de ce fameux mot « décoloniser ». On est en 2026, il semble que ce film nous parle maintenant.
Ouais, c'est d'une... Alors ça, c'est radical par contre.
Ouais.
C'est la radicalité de Fanon, c'est de faire écho à aujourd'hui. Et c'est ça que je pense, c'est que souvent les gens pensent que c'est dans le côté guerroyer qu'on avance, mais aussi c'est sur la longueur. Et je pense que tous les textes et que tout le point de vue de Fanon prend écho. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a jamais baissé son regard sur la société. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un point culminant sur lequel on a besoin réellement de se retrouver et de comprendre comment, en face de nous, la société, elle est devenue cannibale.
Jean-Claude, votre premier film s'appelait Nègre marron. Puis là, je fais bien attention de le prononcer de cette façon-là pour ne pas être dans le trouble ici, mais montrait une jeunesse antillaise, sans avenir, faute de connaître son passé. Là, ce film-là, Fanon, est-ce que c'est une manière de redonner des clés de compréhension à cette génération-là?
Oui, c'est ça, c'est les thématiques. Hein. Je pense que moi, je suis partie des patients de Fanon, hein, mm-hmm. et qu'il a fallu que je fasse Nègre marron ou Le Gang pour arriver vers lui. Et c'est ça, c'est que je pense dans cette filmographie, c'est aussi mieux se connaître, mieux appréhender notre environnement. Et que, voilà, les Antilles, je pense qu'on connaît, hein, on connaît tous les peuples qui ont eu un moment subi la colonisation. Je pense aussi que le Canada a aussi cette particularité. Mm-hmm. Les Anglais, les Français, ça, je crois.
Oui, oh, et avec les Autochtones aussi.
Oui, les premiers peuples. Ouais, oui. Et ça, c'est encore un autre volet. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'on est tous concernés aujourd'hui par ce débat, vraiment.
Ben Jean-Claude Barnier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir ici à l'émission Au quotidien.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Merci.